cet accueil québécois, il commence à prendre le bord un peu.
Ça, on ne pourra jamais le pardonner. Ni à Legault, qui a été responsable de ça aussi, ni à Trudeau.
Non, mais ça, c'est...
D'avoir orchestré un suicide national sous l'égide de la bienveillance, puis l'ouverture, puis ça a été une catastrophe.
Ouais.
Ça nuit à la qualité de vie des Québécois, ça nuit à notre capacité d'accueil, puis notre capacité à aider. Fait qu'au bout de la ligne, c'était politique, hypocrite, égoïste, méprisable. Il n'y a rien là-dedans qui méritait
le signalement de vertu qu'il a fait toutes ces années-là, finalement.
Ben non.
La chaîne 7 jours sur Terre a connu son succès en 2018 et n'a cessé de croître depuis. Avec Benjamin Tremblay à la tête, on parle de géopolitique, un sujet qui intéresse à l'international. Il est principalement écouté en Europe, en Afrique et ici au Canada. J'étais de visite à Québec et je suis passée dans ce qu'il appelle son quartier général, son studio. On a parlé d'immigration, de crise identitaire québécoise et de plein d'autres sujets passionnants.
T'habites-tu toujours chic demain? Ou juste à
Je travaille.
OK, là, tu travailles.
Ouais.
OK. Si je te croise à l'épicerie...
C'est un gars de com.
C'est ça. T'as étudié en quoi?
Communication.
En communication.
Sciences Po, économie, communication. Un bac multi.
Pourquoi géopolitique? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers de la géopolitique? Ça a commencé où, cet intérêt-là?
C'est un gars curieux. J'aime tout. Que ce soit de la tech, que ce soit des armes, que ce soit des chars, que ce soit n'importe quoi, tout me fait triper, puis je suis fasciné parce qu'il est intéressant.
Mm-hmm.
Fait que c'est pas trop long qu'à un moment donné, tu commences à regarder... tu t'intéresses, par exemple, à l'aviation. C'est quoi la plus haute des aviations? C'est l'aviation militaire. Après ça, tu comprends que comment ça, c'est les Américains qui ont les plus hautes. Puis là, tu compares avec les avions chinois, les avions russes. Puis à un moment donné, tu viens à voir, parce que tu es intéressé par la politique, parce que tu es intéressé par l'histoire, parce que tu es intéressé... La géopolitique, pour moi, c'est la science universelle.
Dans quel sens?
C'est la science qui réunit tout ça ensemble. C'est la géographie, c'est l'histoire, c'est la science politique, c'est la philosophie, c'est la géologie, c'est les ressources naturelles, c'est la science humaine. C'est tout ça mis ensemble, puis l'agriculture.
Ouais.
Fait que toutes ces affaires-là m'intéressent, mais pas assez pour en faire une spécialisation individuelle.
Ouais, je comprends.
Je serais pas un agronome, mais j'aime ça comprendre le rôle que ça a ensuite, de savoir que tabarnouche, c'est une crise de fertilisants, l'impact que ça a sur les productions mondiales, puis l'impact que ça a ensuite sur les famines, sur la stabilité des pays, par exemple, dans le Moyen-Orient, ou encore une guerre en Ukraine, l'impact que ça a non seulement sur les grains, mais ensuite sur l'Afrique, puis sur le Moyen-Orient, qui eux-mêmes vont avoir de l'instabilité, qui ensuite vont créer des mouvements de réfugiés. C'est ça, je veux dire, parce que c'est la science universelle.
Ouais.
Faut juste se percher sur le mode de la géopolitique pour être vraiment capable d'avoir un regard sur tout.
Trouves-tu qu'on fait assez ce genre de pas de recul pour avoir un regard sur tout? Est-ce qu'on le fait assez au Québec? Trouves-tu que les gens s'intéressent à la politique ailleurs dans le monde, en général?
Ça dépend des endroits. Je pense que s'intéresser à la géopolitique, c'est une nécessité dans beaucoup de cas.
Mm-hmm.
Ce que j'observe, pour ma part, c'est qu'il y a un gros intérêt en Europe.
Oui, c'est ça. T'es beaucoup suivi en Europe. Puis en Afrique aussi, je pense.
Oui, c'est à peu près le tiers. On a près le tiers au Canada, au Québec, dans francophonie. On a le tiers dans francophonie africaine et le tiers dans francophonie européenne. Ce que j'observe, moi, c'est que si on regarde, par exemple, en Europe, ceux qui s'intéressent à géopolitique, il y a une raison très claire. C'est parce qu'ils sont au beau milieu d'une période de bouleversement.
Oui.
Qui exige, qui s'intéresse à qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Puis qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'ici? Fait qu'il y a une nécessité là-dessus.
Ouais.
Ils sont à une croisée des chemins. L'Afrique, je les adore pour ça. Ils ont un pragmatisme, une lucidité qui est rendue nécessaire par les conditions.
Ben oui.
Que si ton gouvernement change tous les 5 ou 10 ou 15 ans par un coup d'État violent, que... Tu dois comprendre de où ça vient, c'est qui ce gars-là, c'est quoi ses ambitions, c'est quoi ses orientations pour les prochaines années, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour tes enfants, parce que ça change au bout de la ligne les décisions que toi tu vas prendre. T'sais. Fait que c'est ce que je veux dire par ce que j'observe, c'est que souvent l'intérêt pour la géopolitique, c'est une nécessité.
Ouais.
Au Québec, tu vas avoir beaucoup de souverainistes, naturellement, qui essaient d'avoir un meilleur regard sur la place du Québec dans le monde, qui essaient de savoir comment on peut en arriver à ça. T'en as d'autres qui ont tout simplement travaillé dans des industries scientifiques, techniques, en ingénierie, qui ont voyagé à l'étranger, puis qui voient la place unique qu'on a en Amérique du Nord, puis l'espèce de prospérité incroyable.
Le potentiel non exploité aussi.
Aussi, oui. Fait que de manière générale, moi, ce que je vois, c'est que quand on a besoin de s'intéresser à la géopolitique, on s'y intéresse. Regarde ce qui se passe au Canada en ce moment. Il y a quand même quelque chose de fantastique.
Je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne sais pas si on s'est assez bien intéressé à la politique internationale vu le vote. Il y a comme le gars... Je vais avoir l'air de donner mes opinions politiques, c'est pas la première fois que je le fais, mais mettons qu'on regarde qui a été voté pendant 10 ans de façon purement pragmatique. Pendant 10 ans, on a eu les libéraux au pouvoir. Les gens étaient rendus à un point tel, le parti s'effondrait, il a dû démissionner, ça n'allait pas du tout. Son conseiller économique est celui qui est maintenant celui qui dirige notre pays. Pourtant, il a fait des choix tout à fait douteux.
Mais il faut comprendre les Canadiens quand même.
Je comprends pas. Explique-moi les Canadiens.
Ben, c'était assez clair à mon sens. On avait une élection qui était originalement sur un seul thème, qui était de briser le statu quo.
Avec Trump.
Avant Trump. À partir du moment où on avait un Justin Trudeau qui était clairement expiré politiquement. On avait passé sa date.
Ouais.
Il était clair qu'on allait se retrouver avec un autre premier ministre. La question, c'était lequel.
Mm-hmm.
Il fallait briser le statu quo. On n'était pas encore exposé tant que ça à la menace de Trump. Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait un premier ministre Trudeau qui était ridiculisé, qui n'avait pas vraiment la crédibilité pour affronter Trump. Et au bout de la ligne, on s'est retrouvé avec ces menaces du 51e État, puis les tarifs qui sont venus avec. Initialement, ce qu'on voyait, c'était que les gens voulaient briser le statu quo au Canada, qu'ils voulaient une baisse d'impôts, qu'ils voulaient fermer les frontières, qu'ils voulaient prendre leur place à travers le monde, qui voulait être pris au sérieux. C'est ce qu'ils voyaient aussi à travers Trump. Ils voyaient qu'on n'était pas pris au sérieux.
Mm.
Fait que l'élection était sur le thème de briser le statu quo. À partir du moment où Trump arrive puis menace tout ce que t'es et tout ce que tu détiens, tout ce que tu contrôles, puis dire qu'on va faire de toi un 51e État, puis on va t'absorber, puis tu ne mérites pas d'être un pays, c'est essentiellement le message derrière ça. Ajoute des sanctions, ajoute des menaces à la qualité de vie des gens. C'est comme ça que ça a été reçu par beaucoup de Québécois, de Canadiens. C'est-à-dire, c'est mon niveau de vie qui est remis en doute et il ne faut pas leur en vouloir, c'est ce que je veux dire. Les politiciens, tant provinciaux que fédéraux, ont été excessivement clairs là-dessus. Oui, c'est ton niveau de vie qui est en jeu.
Mm-hmm.
It's a big deal, absolument. Mm-hmm. On doit régler ça, puis si on ne le règle pas, on a un gros problème.
J'ai un secret à vous confier, il faut que je vous parle de ça ici. Ça s'appelle le bracelet de performance CM2. Et c'est des ondes électromagnétiques pulsées. Je l'ai essayé en étant un peu sceptique au début, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. Quand on l'achète, on a 30 jours pour l'essayer. Si on n'est pas satisfait, on nous rembourse. Donc moi, ça m'a convaincue de l'essayer. La raison pour laquelle j'avais envie de l'essayer, c'est parce que j'étais fatiguée, une fatigue lourde. Je suis beaucoup sur mon ordinateur, puis je finis par être un peu comme dans le brouillard, brain fogged. Et ça m'a vraiment aidée dans mon énergie. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet une meilleure circulation du sang et ça va désagglomérer les globules rouges, favoriser l'élimination des toxines. Pour les gens qui ont des problèmes inflammatoires, de douleurs chroniques aussi, ça aide vraiment beaucoup. Et c'est là que j'ai été convaincue de vous en parler. C'est le jour où ma mère l'a essayé. Ma mère est venue ici, elle était coincée dans le dos. Puis elle me disait, je ne sais pas comment je vais y arriver. Elle venait pour m'aider avec les enfants. Puis elle dit, je ne suis pas capable de me pencher. Puis je lui disais, ah ben essaie ça. Il paraît que ça aide pour les douleurs. 10 minutes après, elle m'a dit, Hélo, j'en reviens pas, j'ai plus mal. Puis je dis, mais calme-toi, maman, ça doit être l'effet placebo. Elle l'a gardé toute la journée, tout le lendemain, et c'était terminé. Elle avait presque plus aucune douleur, alors qu'elle était complètement paralysée. Et ben finalement, vous comprendrez qu'elle en a un maintenant, elle ne peut plus s'en passer. Alors, je me suis dit, il faut que je vous en parle, ça vaut la peine, du moins, si vous êtes quelqu'un à qui ça pourrait bénéficier. J'avais envie de vous partager ce grand secret, cette grande révélation dans ma vie, ces ondes électromagnétiques pulsées. Alors, ça s'appelle le bracelet de performance, et vous pouvez le trouver dans ma boutique, sur mon site helloveutsavoir.com.
D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle Justin... Donald Trump a commencé cette espèce d'épisode du 51e État. C'est dans la foulée de l'imposition de tarifs au Canada. On évoquait la possibilité. Et il pose la question à Trudeau. Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça ferait si jamais on mettait un... Et Trudeau lui répond tout bonnement, le Canada cesse d'exister. It ceases to exist. Dans ces termes-là. Donc, ensuite, on comprend la réaction des Québécois puis des Canadiens qui se font dire « ton pays pourrait cesser d'exister
».
Qu'est-ce que tu fais? Ben, le thème de l'élection, c'est de préserver le statu quo maintenant.
Ça s'est joué vraiment sur une affirmation un peu grotesque de Trump.
Ouais.
Puis finalement, nos élections, les 4 prochaines années, ont été scellées sur... Parce qu'on s'entend que l'élection canadienne s'est jouée vraiment beaucoup sur la peur de Trump.
Oui, la peur. La peur. Mais il n'y a rien de plus payant que la peur, politiquement.
La culpabilité.
La peur, c'est le levier politique le plus puissant qu'on ne peut pas imaginer. Si je peux te faire peur ou détester quelqu'un d'autre, écoute, on peut aller loin ensemble.
Ouais.
Maintenant, pour ce qui est Trump...
On peut aller loin, je ne sais pas.
Les Canadiens ont eu peur. Ils ont eu peur que, pas nécessairement de l'absorption, mais ils ont eu peur que leur relation privilégiée avec les États-Unis soit perdue pour toujours. Ils ont eu peur qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Ils ont eu peur devant une dette absolument incontrôlable qu'on leur disait incontrôlable, que les conservateurs martelaient un problème qu'il fallait régler rapidement, contracter les dépenses publiques. Et là, tu arrives ensuite avec quelqu'un qui t'annonce essentiellement que ça va être soit un effondrement économique, soit une absorption. Les Canadiens ont réagi de la manière la plus rationnelle possible.
Ouais.
Peut-être pas de la manière la plus intelligente, mais de la manière la plus rationnelle dans le contexte. Ils ont voté pour ce qu'ils voyaient comme une préservation du statu quo. On a les libéraux. Et en plus, complimentons Mark Carney là-dessus. Mark Carney, on l'a décrit beaucoup comme un gauchiste, un mondialiste, un ci, un ça. C'est un opportuniste.
À 100%.
C'est pas la même chose.
Ouais.
C'est vraiment pas la même chose. Il va dire ce qu'il pense est populaire. Si on recule de 10 ans dans un Canada multiculturaliste qui était vendu à l'idéologie Trudeau et sans ambiguïté là-dessus, là, le Canada, c'était le Canada de Trudeau. Trudeau représentait très bien l'identité canadienne et qui on voulait être, qui on aspirait d'être. Naturellement, un Mark Carney écrit et vante la politique de Trudeau. Naturellement. Trudeau est extrêmement populaire jusqu'à il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Jusqu'à temps qu'il a fallu commencer à avoir un gouvernement pour de vrai. Maintenant, arrive aujourd'hui, le Canada s'est déplacé considérablement à droite. C'est un peu le phénomène qu'on est en train de décrire là, avec avant, si on veut, la peur de Trump. Le Canada était déplacé à droite déjà.
Qu'est-ce que tu entends par déplacé? Tu penses que l'électorat était davantage de valeur droite? Pourtant, je pense qu'on était en plus de gauche.
On s'est déplacé considérablement à droite au Canada dans les dernières années.
Parce qu'on est tellement rendu inclusif avec nos politiques LGBTQ et
exact.
Tout ça.
Exact. Bien, voilà, c'est là qu'on va, justement. Ça, c'est un héritage de Trudeau.
À fond.
Absolument. Parce que Mark Carney est arrivé, il a fait campagne sur des promesses et des engagements qui auraient essentiellement pu être des engagements conservateurs. C'est un peu la faute des conservateurs, d'ailleurs, parce qu'ils ont joué une carte un peu conservateur light depuis quelques années. Arrive n'importe quel premier ministre libéral qui décide de dire « Mais sais-tu, je vais être un centriste. » Ça devient conservateur. Et donc, Mark Carney, c'est ce que je veux dire, il a juste pris acte de où se trouvait la population canadienne en ce moment. Si 5-10 ans auparavant, c'était, bien, effectivement, DEI, l'inclusivité, la diversité, etc., le multiculturalisme. Aujourd'hui, le Canada est ailleurs. Le Canada, le consensus sur l'immigration est entièrement brisé. Il existait un consensus sur le gain net qu'on recevait de l'immigration internationale. Ce consensus-là a été brisé.
Donc, et c'est entièrement... que la population n'est plus favorable à une immigration massive.
Il n'y a pas de consensus qui existait auparavant. Il y avait une opposition quand même. Il y a un consensus, ce n'est pas une unanimité.
Non.
C'est juste qu'il y a une majorité ferme et claire de gens qui étaient... favorable à l'immigration, qui voyait qu'on avait un gain positif, qui voyait que l'immigration qu'on avait ici, puis il faut comprendre aussi, l'immigration qu'on a héritée du programme Harper et de l'ère Harper, c'était un des programmes d'immigration les plus vantés à travers le monde, parce qu'on y allait d'un système de sélection à partir des points, on choisissait les meilleurs et on se faisait même accuser par plusieurs de participer à un brain drain. Qu'on allait prendre les meilleurs, les ingénieurs, les médecins, les infirmiers qui ont été formés ailleurs dans le monde à grands coûts, pour les venir les faire payer des taxes et travailler au Québec. Toi, si t'es le Maroc, puis je vais littéralement voler tes infirmières, tes infirmiers, tes travailleurs de la santé pour les faire travailler dans le système québécois avec des salaires considérablement plus hauts. C'est toi qui as payé pour les éduquer. C'est toi qui as payé pour les encadrer. C'est toi qui as tout offert le soutien adéquat pour les amener jusqu'à des professionnels qui leur ont offert. Tu sais, quand on dit « it takes a village », c'est la même chose aussi quand on parle d'élever des professionnels puis de les faire grandir dans les rangs. Donc, pendant très longtemps, on avait un bon système d'immigration et donc les Canadiens, conséquemment, étaient largement favorables. Et la question était numérique. Combien on en prend?
Oui, c'est ça, mais c'est là que ça a pivoté.
C'était de le garder en adéquation avec nos besoins de main-d'œuvre. Maintenant, arrive Trudeau, qui extrait complètement la logique de nation, qui parle ouvertement d'un État post-national. Le système d'immigration canadien en a souffert beaucoup, où on a, notamment sur l'immigration temporaire, on a beaucoup ouvert les portes de l'immigration temporaire, des gens qui n'ont pas à passer par les mêmes processus de sélection rigoureux qu'on avait originalement.
La porte est beaucoup plus grande ouverte pour
exact. On a eu un abus de la part d'institutions également. Ça, là-dessus, il y a vraiment une honte. Puis il y a des gestes quasi criminels qui ont été posés par les institutions d'enseignement supérieur, notamment des universités, des cégeps, des collèges, qui ont ouvert des programmes bidons pour faire venir par milliers des Indiens et des Chinois. Et des... Ça, il faut le nommer. Mm-hmm. C'est problématique.
Et dans nos universités québécoises, canadiennes aussi.
Absolument, québécoises et canadiennes. Et ça a été un des grands problèmes qui a mené à l'explosion, comme ça, de l'immigration temporaire. Mm-hmm. C'était qu'on a essentiellement délégué les pouvoirs en immigration à des institutions privées qui avaient un intérêt commercial et financier à remplir leurs classes, à remplir leurs programmes d'étudiants étrangers.
Une fois que le cours est fini, ils retournent chez eux.
Et sais-tu, c'est quoi la chose la plus inhumaine là-dedans? C'est que ça vaut rien. On leur donne un papier que je te signe ici en même temps.
Puis il va falloir qu'ils aillent refaire un cours après rendu dans une autre
nation. Donne-moi 15 000 piastres.
Wow. Mais oui, ça passe.
Fait qu'il y a une inhumanité là-dedans qui est absolument immanquable. Mm-hmm. Puis c'est ce qui est choquant. Il y a une hypocrisie qui a été aussi présente pendant ces années de Trudeau, alors qu'on nous vantait ça comme un geste purement humanitaire.
Oui,
alors
il est tellement altruiste.
On l'a compris par après. C'est un geste politique, c'est un geste idéologique, c'est un geste pour des vertus économiques, parce que le Conseil du patronat demandait d'avoir plus de monde. C'était tout sauf humanitaire. Mm-hmm. Et la preuve, on l'a aujourd'hui. Mm-hmm. En ayant abusé d'un système qui était... On parle de l'immigration humanitaire, on parle de l'immigration, notamment des demandes de réfugiés. C'est surtout un des autres problèmes qu'on a aussi par rapport à ça qui a brisé le consensus. Ça a été qu'on avait un programme d'accueil de réfugiés qui a été instrumentalisé par des immigrants économiques. Des gens qui choisissent le Québec, le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, qui font une liste des top 10 et qui s'en vont en avion jusque dans le pays pour exploiter le laxisme sur la question justement de l'immigration.
Comment ils l'exploitent? Concrètement?
En exploitant la bienveillance et l'amour des du peuple québécois, du peuple canadien, du peuple français qui vous disent, savez-vous quoi? Parce qu'on est conscient qu'il existe des crises dans le monde, qu'il existe des guerres, des famines, des persécutions politiques, religieuses. On doit absolument créer un système pour ouvrir la porte à ces gens-là et éviter, comme en 94 au Rwanda, avec le génocide, ou comme en 40, pendant les années 40, pendant la première, Deuxième Guerre mondiale, qu'un peuple souffre. Mm-hmm. Pendant que la communauté internationale le regarde en faisant rien.
Ouais.
Il faut leur ouvrir la porte et les permettre de sortir de cette région-là. Maintenant, le programme avait été inventé comment? Le programme de réfugiés. L'idée, c'était de dire, tu traverses la frontière dans le prochain pays sécuritaire. C'était d'ailleurs l'idée des pays
le
tiers
plus
sûrs.
Proche, géographiquement.
Le premier pays tiers sûr que tu rencontres.
Okay.
D'où l'entente qu'on a avec les États-Unis là-dessus. Ouais. Ça n'a jamais été pensé pour des immigrants qui
prennent l'avion.
Qui rentrent par Pierre-Elliott Trudeau, qui font une demande, et parce qu'ils savent...
Ils font la demande à Pierre-Elliott Trudeau?
Ils font la demande en arrivant à Pierre-Elliott Trudeau. Exactement, en déposant un pied à l'aéroport, parce que c'est le premier pays tiers sûr qu'ils ont rencontré.
OK, mais ça, c'est comme s'il y a un trou.
Il y a un trou énorme. Il y a une exploitation là-dessus de la bienveillance des Québécois qui ont créé ce système-là pour venir en aide à des peuples en situation de difficulté. C'est ce que je te dis, l'hypocrisie est énorme. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, alors qu'on a ouvert nos listes, bien, naturellement, les gens constatent quoi? Il y en a qui vont traiter tes demandes de réfugiés, les pays civilisés. Mm-hmm. Va en Chine, va en Russie faire une demande de refuge. Si on va te payer pendant 4 puis 5 ans, le temps qu'on traite ta demande, justement, parce qu'on se dit, écoute, c'est pas de ta faute, c'est ici. On ne peut pas prendre pour acquis quoi que ce soit. Tu es arrivé ici, tu nous dis, il y a une crise dans ton pays, il y a quelqu'un qui t'en veut, quoi que ce soit, tu es un réfugié politique.
Good. L'asile.
Je vais traiter ta demande. Je te le garantis, moi, comme pays décent, je vais la traiter, puis je vais faire mon possible pour vraiment comprendre ta situation. Mm-hmm. Et si je peux t'aider, je vais t'aider. Mm-hmm. Maintenant, il y en a une autre, puis une autre.
Et
là, la pile, qu'est-ce qu'on fait? Okay, on continue à les traiter du mieux qu'on peut. Et ce qu'on constate, bien, c'est que puisque le backlog
augmente... Mais là, ils sont là, physiquement.
Ben oui, ils sont physiquement là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a un backlog. Bien, écoute, c'est pas de ma faute si je peux pas traiter ta demande tout de suite.
On les met où, ces gens-là?
On les aide du mieux qu'on peut. On leur donne accès au CPE. On leur donne accès aux services de santé.
Alors que les Québécois ont déjà plus de place en CPE.
Bien, qu'on a une crise sur les réseaux.
Tous les systèmes.
Tous nos réseaux, à peu près. Que ce soit le réseau d'éducation, le réseau de garderie, le réseau de santé, le réseau judiciaire. Il n'y a pas un réseau qui n'est pas en train de craquer.
Non, c'est ça.
Puis là-dessus, je ne veux pas pointer le doigt les réfugiés, les immigrants. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je prendrais la même décision. C'est un peu ça que j'essaie de faire comprendre.
Ouais.
Ces immigrants économiques-là, c'est des gens qui sont dans un pays où ils ne voient pas d'opportunité pour eux, pour leurs enfants. Puis ce qu'ils se disent, c'est regarde, regarde la liste de pays où tu peux aller. Je vais-tu en Chine? Mais non, ils vont me sacrer dehors après 15 secondes.
Il n'y a aucune chance. Ouais.
Je vais-tu au Japon? Ils n'en prennent pas. Ils n'en ont pas pris. Ça fait 50 ans, ils n'en prennent pas. Bon, fait que tu vas dans un pays qui vont traiter ta demande. Mm-hmm. Maintenant, si tu apprends qu'il y a un pays qui veut tellement traiter ta demande, puis tellement respecter les droits des réfugiés, qu'il y a un backlog de 7 ans, et que pendant ces 7 années-là...
C'est ça en ce moment, la réalité?
C'est de 7 à 12 ans, ça peut dépendre d'un cas.
Non, avant vraiment... d'avoir un visa.
Aux États-Unis, en ce moment, tu as l'équivalent de la population de la Belgique qui attend pour une décision d'asile.
Oh mon Dieu!
C'est des millions de personnes comme ça, qu'à un moment donné, ils t'engagent quoi? Combien d'agents? Combien de ressources de l'État on a...
Donc, on
a fait notre possible. Uh-huh. On s'est ramassé avec un backlog. Là, on regarde tout ça et on fait quoi? Ce qu'on constate, c'est que 90 % des gens qui sont là-dedans, au minimum, là, au bas mot, là, ne sont pas des vrais réfugiés. Mm. C'est pas moi qui l'invente. Mm. T'as moins de 2 % des dossiers d'asile au Canada, aux États-Unis, qui sont acceptés. Stephen Anfield, récemment, un avocat en immigration spécialisé sur les dossiers de réfugiés puis sur l'accueil humanitaire comme ça, a décidé de fermer sa pratique privée parce que ce qu'il constatait, c'est que les gens qui se présentaient devant lui, ce n'étaient pas des gens qui avaient besoin d'aide pour les bonnes raisons.
C'était des gens qui avaient vu. C'est plus possible.
Donc, toi, avec tes enfants, à quelque part, que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Inde, qui est un des pays qui envoie le plus, est-ce que l'Inde est un pays qui n'est pas sûr? L'Inde est un pays en guerre?
Non, elle n'est pas en guerre. Hein? Puis ils ont des gens, ils ont des universités, ils forment dans les personnes les plus intelligentes.
Donc, c'est cette hypocrisie-là qui, au bout de la ligne, a fini par nuire. Parce que tu comprends que la conséquence directe, c'est que là, on a un backlog de 7 ans, puis là, on veut t'aider, fait qu'on te donne un loyer, puis on te donne ce qu'on peut en attendant, pour pas que tu souffres
Attends, ces gens-là, ils ont droit à quoi comme service?
Tous les services qui sont considérés comme des services de base. L'aide sociale, notamment.
Ils ont droit à l'aide sociale?
Écoute, je ne veux pas donner des faux chiffres là-dessus.
Non, mais...
En ce moment, tu as 500 millions de dollars par année additionnels, uniquement attribuables aux réfugiés sur le programme d'aide sociale. 500 millions de dollars par année.
Je veux juste
clarifier pour les gens. Le budget du ministère du Tourisme, c'est 125 millions de dollars par année. Les relations internationales, environ 225 millions.
C'est énorme.
On a le budget d'à peu près 3-4 ministères, hein, juste sur la
juste
charge
ces
additionnelle.
Gens qui viennent de l'extérieur. Incroyable.
Et qu'on veut aider.
Oui, mais c'est parce que tu vois, c'est là que ça nous amène à cette situation-là. Tu disais qu'il n'y a plus consensus.
Il y a un bruit de consensus.
Moi, je,
les gens ont l'impression qu'on abuse d'eux, avec raison.
Ils
ont l'impression qu'on abuse des systèmes. Ils ont l'impression qu'ils sont maintenant eux-mêmes victimisés par ce programme d'immigration-là.
Ça va créer de la division davantage. Ça va créer du racisme.
Ben oui.
Ça va créer de l'islamophobie. Ça crée tous les problèmes de société que Trudeau luttait contre.
Tu viens de mettre le doigt sur l'hypocrisie qu'on mentionne depuis tout à l'heure, qui est que la principale victime de tout ça, ce sont les nouveaux arrivants, justement, qui ont vraiment besoin d'aide. Les vrais réfugiés qui doivent sortir d'un pays en situation de crise, puis il y en a, là. T'en as des catastrophes, t'en as des guerres civiles syriennes, t'en as des crises au Yémen, t'en as des vraies situations qui demandent qu'un pays, comme le Canada, digne de ce nom, lève la main puis vienne à ton aide.
Mm-hmm.
Et c'est une obligation au sens du droit international. On est obligé de le faire.
Absolument.
On a plusieurs qui s'en sacent, puis ils vont l'appliquer de différentes manières. Mm-hmm. Ici, au Canada, et comme dans beaucoup d'autres pays développés, on l'applique.
Ouais.
Fait que là, les victimes là-dedans, c'est ceux qu'on ne peut plus aider.
Mm-hmm.
Fait que le programme qu'on a créé, ça devient littéralement un programme qui a été instrumentalisé pour l'immigration économique. Fait que
le but étant de faire... Parce que tu parlais d'objectif tantôt, c'était quoi l'objectif, selon toi, du gouvernement Trudeau avec cette immigration-là?
Ah, ben mon Dieu, idéologique, politique. Ça, là-dessus,
Mais ils font plus d'argent avec ça, à la fin, ou c'est nous?
Il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points là-dessus, puis je ne veux pas les oublier. D'abord, tu as l'objectif du century, qui est très géopolitique. On va y revenir.
On va y revenir, OK.
Deuxièmement, tu as l'objectif politique. J'ai tendance à tout oublier.
C'est parfait.
L'objectif politique, idéologique.
Yes.
Puis finalement, l'objectif économique, naturellement.
Naturellement. Okay.
Et idéologique, on pourrait même rajouter là-dessus. Le Canada Century, l'idée là-dessus, c'était de voir que c'est un projet qui a été développé par, disons, les proches de Justin Trudeau, l'état-major libéral, puis un peu comme on l'a vu avec le projet 2025, notamment avec les Républicains. avant d'arriver au pouvoir, mais aussi en périphérie du pouvoir. On a souvent des groupes comme ça qui vont travailler sur des orientations politiques, idéologiques, des suggestions, des think tanks, autrement dit, des boîtes de pensée. Il y en a un là-dessus, une proposition qui a été soumise aux libéraux et qui a été endossée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau et qui, encore aujourd'hui, d'ailleurs, des proches de cette initiative-là sont tout près de Mark Carney. L'idée, c'est-à-dire le Canada doit avoir 100 millions d'habitants d'ici 2100. L'initiative, c'est donc l'initiative du siècle, le Century Initiative.
Ou on était à ça. 30 millions à peu près quand ils ont lancé cette initiative-là.
À environ 35, 34 environ. Là, on est arrivé à peu près à 40, si je me souviens bien.
C'est énorme, là.
Gigantesque, mais c'était ce que ça commandait. Une augmentation d'environ au minimum, si on fait le calcul, 500 à 1 million de personnes par année de manière constante.
Mais on noue complètement la culture canadienne en faisant ça, en tout cas pour évidemment.
Naturellement, mais là, tu es dans un contexte où un gouvernement rejette cette notion-là.
C'est ça, c'est vraiment globaliste.
Pourquoi tu parles d'une notion canadienne? Ça n'existe pas.
Ça n'existe plus, les nations.
Ça n'existe pas. Puis en passant, 40 % de la population de Montréal est née à l'extérieur de Montréal. C'est plus haut à Toronto, puis c'est beaucoup plus haut à Vancouver.
Oui, Vancouver, c'est 90%.
Ça aussi, on vit sur une île. Là, on est à Québec. Je comprends que pour nous, ça sonne zinzin de parler d'une nation sans nation. Mais si tu vis Montréal,
dans les métropoles
Toronto,
du Canada,
c'est une grande métropole, c'est déjà la réalité.
Ouais,
fait que maintenant, on accepte qu'on dit qu'il n'existe pas de nation canadienne.
Donc, mais ça, c'est assumé, là. Il
s'en
cache pas,
c'est ce qui est accepté par le gouvernement précédent. Maintenant, Carney, je t'avoue, je ne suis pas sûr si c'est encore aligné là-dessus pour une couple de raisons. Trudeau croyait vraiment à ça profondément. Puis ça, on ne peut pas le reprocher à Trudeau. Trudeau, c'était pas un... Puis il y a du monde qui vont m'haïr là-dessus, là. Trudeau n'était pas malveillant. Au sens où Trudeau était vraiment convaincu au plus profond de lui-même, de son idéologie. Mark Carney, Netanyahu, Sarkozy, ça, c'est des gens qui ont un petit élément de malveillance quand même et qui sont conscients de la game et qui l'exploitent au maximum. Quand je te dis tantôt, je ne suis pas prêt à qualifier Mark Carney de globaliste mondialiste. C'est un opportuniste qui va dire ce qu'il pense va être payant
malgré
pour lui maintenant.
Malgré ses connaissances avec le WEF?
Absolument, absolument. Ça, c'était payant avec lui. Non, c'était payant avec lui à ce moment-là.
C'est
un ancien banquier central. Je le vois comme un joueur, vraiment. C'est un player. Le gars, ça fait 15 ans qu'on le voyait chef du Parti libéral comme successeur de Justin Trudeau. Pourquoi tu penses?
C'est
pas quelqu'un qui n'avait pas télégraphié ses intentions politiques depuis longtemps.
C'est vrai, parce que moi, le feeling que j'ai quand je le regarde en entrevue, quand je le regardais pendant la campagne électorale, j'avais vraiment l'impression de quelqu'un qui n'a pas envie d'être là, qui n'est pas forcément quelqu'un qui est à l'aise. Il n'y a pas de charisme. Moi, je trouve qu'il n'est pas bon dans le public. Il ne s'intéressait pas à faire les débats. J'avais vraiment l'impression qu'il était là comme « bon, il faut que je le fasse, là. Mais de toute façon, c'est que c'est moi qui rentre. » Tout le long, c'est le feeling que
je
donnais.
Je le comprends. Il était élu déjà depuis…
C'est ça. Mais est-ce que tu trouves…
C'est une formalité.
Tu parles d'un opportuniste qui, depuis 15 ans, a dans sa mire, mais en même temps, je pense qu'il est intéressé par le pouvoir du premier ministre, mais il n'est pas intéressé par l'aspect populiste.
Non,
de
il
n'est
pas intéressé. Il est intéressé par le pouvoir derrière ça, par le, je pense, le prestige. Le premier ministre est intéressé certainement. Peut-être qu'il a aussi l'envie d'aider et d'avancer le Canada, mais je suis d'accord avec toi que tout le côté performance et théâtre, je ne pense pas que c'est le plus qualifié là-dessus. Qui, à l'inverse, Trudeau était vraiment sur son
Il était très dramatique. Il aurait pu être acteur s'il avait pas
Il aurait
été
pu être prof de théâtre.
Oui, vraiment. Reviens avec ton deuxième objectif de te faire du Century.
Je suis encore sur le premier. Century, l'idée là-dessus, c'est juste de dire les États-Unis vont grossir. Les États-Unis, eux, ont un potentiel d'absorption de l'immigration qui est considérable. On était aussi à ce moment-là, disons, dans l'après-Trump, là, quand ça a été vraiment réfléchi. Et donc, ce qu'on avait en tête, c'est de dire… Et donc, l'idée qu'on avait en tête, c'est de dire les États-Unis vont arriver à quelque chose comme 5 à 600 millions de personnes d'ici 2100.
Donc, ils vont doubler d'ici…
Ils vont avoir une augmentation considérable de 100 à 150 millions dans le minimum, dans le bas mot. Ça, c'était les prédictions de l'époque. Ça a certainement changé là, depuis le reparamétrage de l'immigration aux États-Unis. Mais donc, l'image qu'on avait au Canada, c'est-à-dire, on ne sera pas capable de les suivre. Si nous, on est 30 millions au moment de faire notre calcul, 30-35, les États-Unis sont 350 millions, on est du 1 pour 10. Et là, on se fait annoncer que par les courbes démographiques actuelles,
on diminue.
On va diminuer et les Américains vont grossir. Et ce sera un rapport d'à peu près 1 pour 20.
Aïe.
Ce qui place le Canada dans une position extrêmement difficile. Tu peux changer plein de choses dans un pays, mais tu ne peux pas te déménager.
Non.
Le Canada va toujours
rester.
Oui, c'est extrêmement compliqué. C'est ça. Il faut soutenir quand même une population vieillissante qui est un des plus gros défis que personne n'a trouvé une solution encore. Que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, partout, ce qu'on regarde quand il y a une décroissance de la population, c'est essentiellement un déclin économique et géopolitique qui vient
L'aide
avec.
L'aide à mourir est arrivée à point. On pourrait en reparler.
Si on peut le voir dans cet angle-là, il y a une vertu économique là-dessus qui est impossible à évacuer. Là. C'est certain, ça faisait partie du calcul.
Ouais.
Mais donc, ce Canada Century-là, d'avoir 100 millions de personnes, c'était une visée géopolitique. C'était de voir pour les intérêts supérieurs de la nation canadienne, qui n'existe pas, je ne devrais pas dire ça, du pays, du Canada, il faut être plus. Mm-hmm. C'était ça le calcul.
Ouais.
Plus de monde. Ça, notre armée va être plus haute, plus d'argent, plus de budget, etc. Ensuite, l'objectif politique, idéologique là-dessus, à mon sens, il est relativement clair. Trudeau embrassait sérieusement, profondément le multiculturalisme. C'était pas une frime. Il était sérieux, il y croyait. Et c'était donc c'était vraiment un prophète de son idéologie. Dans ce contexte-là, ce que tu veux, naturellement, c'est détruire ce qui est en antagonisme avec ça. Puis l'identité québécoise l'est beaucoup. Et ça, là, écoute, on rentre dans de la géopolitique hardcore, là, mais c'est quoi ton...
C'est toi qui rentre dedans. Là.
C'est quoi ton mandat comme premier ministre? Premier mandat. En haut de la liste de toutes les priorités, avant la croissance économique,
ça
avant...
Ça devrait être de représenter ta nation.
Avant même ça, c'est de t'assurer qu'elle continue à exister.
Ouais, OK.
Essentiellement. De s'assurer de la pérennité. On te donne les clés, là. Crache pas le char, on va te le reprendre dans 4, dans 8, dans 12 ans, peu importe. On va en avoir besoin, on fait juste te le prêter.
Ouais.
Maintenant, si tu te ramasses avec un Canada qui n'a pas vraiment de menace externe, sa plus grosse menace à la fin de l'existence du pays, c'est un éclatement interne.
Ouais.
Un éclatement de la Fédération. Ouais. Et quand on regarde une photo du Canada dans les 15-20 dernières années, la plus grande menace, c'est le nationalisme québécois puis l'incompatibilité
avec
cette
mission-là.
Avec certaines
provinces, comme
aussi.
L'Alberta.
Du multiculturalisme qui est en train d'essayer de renier littéralement le Québec. Fait que là, on t'apprend, t'es première ministre du Canada, puis tu crois à tout ça, puis on t'apprend qu'il y a 50 000 personnes qui rentrent toutes les années par le chemin Roxham, que ce sont des gens qui se déclarent réfugiés, qui ne parlent pas français pour la plupart.
Non, puis qui sont pas forcément, ils sont pas venus embrasser la cause indépendantiste du Québec.
Et non, et qui s'installent au Québec.
Exact. Ils n'ont pas l'intention d'être.
Et que c'est le Québec qui paie pour ça.
C'est ça.
Et qui cogne à la porte en te demandant, peux-tu nous aider, s'il te plaît, ça coûte 500 millions par année. Puis que tu arrange-toi.
On peut pas faire ça, on n'est pas comme ça.
Est-ce que c'est vraiment une nuisance pour toi comme première ministre du Canada? C'est un avantage. C'était un avantage pour Trudeau, qui voulait déjà de l'immigration, qui regardait déjà pas qui rentrait anyways tant que ça, qui, là, on t'annonce qu'il y en a 50 000 de plus, contre un Québec qui, lui, essaie de fermer ses portes et essaie de contrôler pour essayer de maintenir une certaine culture puis une cohésion sociale. De ton côté, tout ce que tu vois, c'est le multiculturalisme en train de s'installer au Québec par la force. Par le courant de l'histoire,
mais
tout simplement.
Mais ça fonctionne aussi. Parce qu'on voit comment le Québec s'est fait complètement assimiler. Là. Puis vitesse grand V depuis les 4-5 dernières années, c'est assez impressionnant.
Tu sais, ça, c'est depuis 1995, ça a été un objectif affiché du gouvernement canadien fédéral. C'était devant la menace fondamentale, géopolitique, critique de l'explosion du pays.
Ouais.
Tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Ta première mission, c'est d'écraser ça.
Oui, puis ils ont bien réussi.
On a vu le multiculturalisme naître en réaction à tout ça, justement, comme un moyen d'en chasser ça dans l'identité canadienne. C'est-à-dire, l'identité québécoise, de quoi tu parles? T'es une parmi tant d'autres. Le récit des nations fondatrices, les Anglais, les Français, c'est plus vrai, ça. Ouais. C'est archaïque, c'est surhumain.
Non, puis mettons, on a démonisé l'homme blanc. Fait que, tu sais, là, on nous rend comme...
Bien, c'est de dire, t'es pas meilleur qu'un autre.
Non, c'est ça.
Puis la culture canadienne, l'identité canadienne, c'est pas la somme des francophones et des anglophones. C'est la somme de toutes les cultures qui composent la population canadienne. Que tu sois indien, chinois, pakistanais, japonais, autochtone, évidemment. C'était de fondre tout ça dans une espèce d'énorme identité commune qui n'était ni l'un ni l'autre, une espèce d'entre-deux, une fierté administrative, une soupe, exactement, on pourrait le voir comme ça, un énorme bouillon. Puis, donc, tu le vois comme ça, à un moment donné, c'est-tu vraiment un désavantage qu'on parle d'une crise d'immigration au Canada?
Non, je comprends que pour eux, c'était une solution.
C'était une solution à un problème, en plus d'être une motivation idéologique de base. Les seuls qui te parlent d'une friction, d'un problème, d'un « il faut qu'on règle ça », c'est les méchants Québécois racistes qui essaient juste de se séparer de toute manière. Fait qu'il y a eu un objectif politique là-dessus.
Imagine à quel point ça a changé en 30 ans. Tu sais, quand tu regardes depuis 1995-2025, le Québec a tellement changé. C'est comme si le non, le perdre le référendum, a été comme ce qui a fait effondrer la nation. Tu sais, le pays, pour moi, le Québec, c'était un pays avant. Puis maintenant, je regarde le Québec, puis je reconnais pas. J'ai perdu tout à fait mes repères. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Mais pour moi, un peuple vaincu. Mais vaincu, mais complètement cassé, là.
Ouais.
Tu sais, qu'il n'y a plus de fierté, souvent, on dit ça, là. Je pense tout le temps au sketch de François Pérus, on n'a plus de fierté dans rien, mais tu sais, c'est triste de voir comment... Parce que pour moi, c'est pas ça le Québec, j'ai voyagé dans tellement de pays, puis tu sais, à chaque fois qu'on rencontre... Premièrement, les Québécois voyagent énormément, c'est des gens qui sont curieux puis sont intéressés. Puis tu sais, à chaque fois qu'on rencontre des Québécois ailleurs sur la planète, on est content de se rencontrer. « Hey, des Québécois! » Puis tu sais, c'est tout le temps... C'est comme une fête, là. Mais tu reviens au Québec, puis entre nous, on s'entraide pas. Il n'y a pas de civisme. On va pas ralentir sa route pour pas éclabousser quelqu'un sur le trottoir. On va pas tenir les portes. Peut-être qu'à Québec, c'est de même. En tout cas, dans la grande région de Montréal, je te garantis que tout ça, tu sais, ce tissu social qui s'est complètement désagrégé. Fait que je trouve ça vraiment dommage de voir, tu sais, moi, en tant que fille qui est fière d'être québécoise, souvent les gens me disent pourquoi tu vas pas vivre ailleurs, tu sais. Mais parce que c'est ici, ma nation, tu sais, c'est ma maison. Mais c'est triste de voir ça.
Il y a de quoi qui est terrifiant là-dessus. Puis j'ai souvent la discussion avec mes petits frères. Parce que mes petits frères sont peut-être à 16, 17, 18 ans.
OK, ils sont beaucoup plus jeunes que toi.
Oui, beaucoup plus jeunes que moi, environ une dizaine d'années. Puis les deux sont, tu sais, à un point tournant, une période où tu choisis, où tu prends des décisions critiques pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu veux être? L'homme que tu veux devenir? C'est quoi tes valeurs? Ce que tu aimes quitter? Puis ce que j'essaie de marteler autant que possible, c'est de profiter au fur et à mesure que ça passe. C'est de profiter de chaque étape.
Mm-hmm.
Puis de comprendre que le potentiel, le seul potentiel qu'on voit, c'est celui qu'on débloque.
Mm-hmm.
Il n'y a personne qui va venir cogner à ta porte dans 20 ans pour te dire « Salut Louise, tu aurais pu être chanteuse rock'n'roll, star internationale, si tu avais continué tes cours de guitare en troisième année, tabarnouche, t'as arrêté. » Il n'y a personne qui fait ça.
Mm.
Puis il n'y a personne qui va venir cogner à ta porte. Tu aurais pu être un des plus grands avocats au monde. Tu aurais pu être un plaideur reconnu. Tu aurais pu avoir 7 enfants puis une famille qui t'aime. Tu aurais, peu importe c'est quoi le potentiel énorme qu'il y avait derrière quelqu'un qui a été saboté à un point ou à un autre du processus, on ne nous avertit pas. Puis l'autre chose, on ne nous avertit pas du pic non plus. Personne ne vient cogner à la porte pour dire, « Benjamin, it will never be that good again. »
Ouais.
Ce que tu as en ce moment, là,
goûte-le, savoure-le. Mm-hmm.
Profite du temps avec ta famille, profite du temps avec tes frères, profite du temps au travail. Tu ne sais pas combien de temps ça peut durer. Il n'y a personne qui va venir cogner pour me le dire, c'est là, en ce moment, le pic. Too bad. À partir de maintenant, c'est le déclin. Puis... C'est la même chose avec le Québec. C'est la même chose avec un pays. Vu le Royaume-Uni, par exemple, qui a clairement connu son pic.
Ça ne se passe pas super bien au Royaume-Uni.
Non, on a vu la Libye.
La France.
La Libye a connu un pic. Personne ne les a avertis.
Ça reviendra peut-être, mais en ce moment, ça ne se passe pas super bien.
Il y a des gens qui ont... Écoute, on pourrait parler du Québec, on pourrait parler de n'importe quel État. Je ne vais pas m'avancer dans des exemples spécifiques parce que c'est toujours douloureux d'évoquer ça. On peut parler d'Haïti, on peut parler d'un million d'affaires. C'est douloureux pour les gens parce que c'est douloureux pour les Québécois d'entendre ça.
Exactement.
C'est douloureux pour moi.
Mais
c'est possible, puis j'y crois de plus en plus, que le Québec a traversé son pic. Que c'était ça, le pic. Puis la discussion précise qu'on est en train d'avoir là, je l'ai eue avec mon oncle Régent, qui a été journaliste pendant des années, Régent Tremblay, que je respecte énormément. Puis on discutait de manière assez libérale là, de l'État du Québec puis du Canada. Puis je descendais en auto de Montréal vers Québec. Puis je disais, écoute, ce que je vois de Montréal, ça m'attriste, ça me fait de la peine.
Je comprends.
Puis il me disait, ah ouais, écoute. Et on se met à jaser de l'État du Québec en 1995. Et c'était ça son point. Il parlait du pic, tout ça. Il me dit, moi, je pense que ça a été en 95. Il me décrit l'État, il dit... On avait les Nordiques encore qui jouaient au Colisée à Québec. On avait, je ne sais pas trop combien, une bonne relation avec les autres. C'était le début du libre-échange. Tu avais 7 puis 8 chaînes de TV. T'avais
tant de promesses.
Tant de promesses. Puis, encore une fois, personne ne vient cogner à la porte pour dire c'est le pic. Le pic d'un crescendo de nationalisme, de croissance économique, de développement, d'espoir pour l'avenir aussi. Puis c'est, moi, pour ma part, c'est le plus gros déterminant du bonheur. Aucun doute là-dessus. Savoir est-ce que je me trouve, est-ce que je suis heureux en ce moment ou pas, ce qu'il détermine, c'est « Is the future bright? » quand je regarde en avant de moi, un an, deux ans, six mois, 15 ans, est-ce que ça a l'air encourageant? Est-ce que j'ai le goût de vivre ça? Est-ce que ça m'excite, puis je suis optimiste, puis enthousiaste? Si la réponse, c'est non, je suis malheureux.
C'est sûr, ben oui.
Puis moi, je pense que de plus en plus, les Québécois regardent 5, 10, 15, 20 ans devant eux autres, puis sont découragés, puis ont peur.
T'as raison.
Fait que dans cette optique-là, ben écoute, c'est
le Québec... Il y a une espèce de déprime généralisée ou d'apathie aussi, parce que c'est comme, ben ça sert à rien, c'est trop tard. T'sais, on a vu les sonneurs d'alerte, je pense à Mathieu Bock-Côté, ça ne date pas d'hier, ou Alain Deneau que j'ai reçu aussi, ça ne date pas d'hier que ces gens-là sonnent l'alarme sur les espèces de dérives là, qu'on nous a vendues comme étant la grande solution à tous nos problèmes, qui finalement s'avère être pas si miraculeuse que ça.
C'est ce qui m'encourage tellement par rapport à la volonté du Québec d'exister. Parce que je l'ai remis en doute souvent. À me dire, bon, ben, peut-être que justement, moi, je regarde les Québécois. Moi, je regarde le Québec, ça me fait de la peine. Puis ma réaction naturelle, c'est de m'en déconnecter autant que possible. Les gens me disaient, pourquoi tu n'es pas plus impliqué que ça?
Québec,
mais pourquoi tu n'es pas plus impliqué dans le mouvement souverainiste? Pourquoi je ne suis pas plus dans la politique québécoise? Pourquoi je ne participe pas activement au discours d'affaires publiques? Ça me fait de la peine.
T'es trop touché par ça.
J'ai l'impression que, puis je pense qu'il y a un mécanisme de défense puis d'autoprotection qu'on voit chez beaucoup de Québécois aussi par rapport à leurs ambitions nationales, puis à comment ils voient le Québec, puis à comment ils sont mobilisés à aider, puis leurs espoirs, puis « is the future bright? » Bien, si la réponse est non, ce que tu fais, bien,
non, mais même, il ne fait jamais beau.
Tu gères tes petites affaires. Ah, écoute, ça, c'est un autre point.
Mais non, mais juste comme au sens figuré, au sens littéral, on dirait qu'on n'a pas de gros soleil. Tu sais, c'est comme si ça ne rayonne pas là, en ce moment au Québec.
Ça va dans l'esprit de ce que je mentionne.
Ouais.
J'ai l'impression que les Québécois ont perdu un peu espoir. C'est pour ça que je te dis, ce genre de choses-là, de signal d'alerte donné par des Mathieu Bock-Côté qui ont été dénoncés, qui sont encore aujourd'hui comme des racistes xénophobes pour avoir rien qu'osé mentionner la chose. Ça m'encourage, parce que ça montre que ce qu'on décrit depuis tantôt, justement, Roxham, l'immigration de fous, l'abus, justement, de la bienveillance des Québécois, ça me dit que tout ça a été fait contre la volonté des Québécois. Ça a été fait contre leur volonté et contre leurs intérêts depuis le début. Fait que c'est là que je me dis qu'il y a peut-être ça de bon à voir là-dedans, que dans toute la bande de zélés qui ont mis ça sur pied, il y avait quelques-uns là-dedans qui levaient la main et qui le dénonçaient comme étant un suicide national, comme étant un État qui fonce vers le mur. Et ces gens-là, ce sont des Québécois qui l'ont vu à partir de la perspective de la spécificité culturelle québécoise, c'est-à-dire là, nous, on est en train de mourir, donc vous, vous n'en avez peut-être rien à faire, mais nous, ça c'est grave, parce qu'on veut vivre. Et ça, je te dis, il y a eu quelque chose là-dessus qui m'a encouragé sur la volonté d'exister des Québécois, à laquelle je ne croyais plus vraiment. Je me disais, peut-être qu'ils n'ont même plus le goût. Fait que moi, demande-moi pas de participer, tu sais.
Mais j'ai hâte de voir, tu sais, nous, on est quand même assez jeunes, on va voir un Québec qui va être assimilé. Tu sais, déjà, Montréal, en ce moment, tu sais, moi, j'ai quitté Montréal en 2020, mais j'habitais là depuis 15 ans. Puis maintenant, on vit ça arrive sud, là, on est à côté de Montréal. Mais je retourne à Montréal, ça ne s'appelle plus français, là. Le plateau Mont-Royal, ça parle juste anglais, là. Puis, tu sais, moi, j'étais dans Hochelag. Tu sais, Hochelag, c'était québécois à fond la caisse, là. Je suis partie un an, je suis partie vivre à Vancouver un an de 2017 à fin 2018. Je suis revenue, j'ai repris mon condo, je l'avais loué. Puis j'étais installée sur mon balcon, j'écoutais le monde passer sur le trottoir. Je me disais, mais il n'y a plus personne qui parle français. And the worst is that they speak in English together, but they are Québécois.
Ouais, ça m'est arrivé une fois à Montréal, qui m'arrête, puis qui me dit, sorry, where's the.
Parle-moi en français.
Puis j'y réponds en anglais, puis après cinq secondes, les deux, on s'agarde, fait, you speak French?
Oui.
Puis on s'est-tu senti minable?
Ah, mais c'est bien, par exemple, parce que moi, souvent,
perdant, puis loser, puis écrasé. Quand tu dis un peuple vaincu, c'est que tu parles la langue de l'envahisseur entre vous autres.
Il y a un problème, mais c'est rendu ça.
Par réflexe.
Un réflexe.
Mais maintenant, ben c'est ça, on revient à notre 40 % de la population de Montréal qui est née à l'extérieur du pays.
Mais à l'extérieur du pays, pas à l'extérieur de Montréal.
Non, à l'extérieur
moi, je pensais que tu faisais à l'extérieur de Montréal.
À l'extérieur du pays.
Aïe, OK, c'est plus
grave. Parlons d'immigrants de première génération. Donc là, tu ajoutes à ce 40 % tous les anglophones de Montréal. Tu ajoutes tous les immigrants de deuxième génération qui ont appris l'anglais plutôt que le français. Tu ajoutes tous ceux qui sont partis d'ailleurs au Canada, qui sont nés au Canada, en Ontario, en Colombie-Britannique, qui ont migré vers Montréal. Ce que tu vois comme portrait, c'est que les francophones à Montréal sont minorité claire.
Très minoritaire,
Une minorité claire.
Ouais.
Donc maintenant, ben écoute, ce que je vois, moi, de par mes amis qui parlent anglais, eux autres ne parlent pas français. Mais moi, je parle anglais. Fait que de par la bienveillance des Québécois, on va s'asseoir ensemble dans un bar à Montréal
on
quand
va
j'y vais.
10 qui parlent, mais il y en a un anglophone, tout le monde va se mettre à parler en anglais.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Oui, mais on la connaît toute cette situation-là, la vie
on
régulièrement.
Vécu. Parce que par bienveillance.
Mais oui,
et par bonne
on
foi.
Est accueillant, on ne veut pas faire de la peine.
Fait que oui, Montréal est dans une ville. La première fois que j'ai vu ça, j'étais à Montréal avec un ami à ce moment-là, puis ça faisait quelques années que je n'avais pas été au centre-ville. Non. Les gens de Montréal aussi, ben, j'adore la nuance là-dessus parce qu'on va souvent me dire « Ouais, mais là, tu étais au centre-ville. » C'est comme « Ouais, mais si je vais dans ta ville, puis il ne faut pas que j'aille au... »
Ouais, c'est ça. Évite le centre-ville.
Va dans les quartiers, c'est correct. C'est comme « Ouais, mais c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut reconnaître que c'est un énorme problème qu'on est au centre-ville à Québec? Puis vous me parlerez d'un gros village. Je vous parlerai quand même d'une agglomération d'un million de personnes.
Ouais. »
Puis il me semble que c'est vivable.
C'est pas vivable.
Puis il me semble qu'on se claque pas à la porte dessus.
Ah,
puis il me semble que les policiers sont pas encore saturés puis dépassés. Puis s'il y a quelqu'un dans une situation de crise qui a besoin d'aide, ils vont être trois arrêtés autour.
Ouais.
À jaser avec, puis à voir comment on peut t'aider. On va t'amener dans une ressource, ils sont pas encore saturés, toute la gang. C'est ça que je trouve qui est dommage.
Ouais.
La première fois que j'ai vu ça, que j'ai compris qu'on avait perdu puis qu'il était trop tard.
Ouais.
Écoute,
j'en
chiquais.
T'as-tu une
C'était en 2015 environ, 2015-2016. Ouais.
Ben,
c'était déjà l'ère Trudeau, puis c'était déjà de constater que la réflexion que j'avais, c'était les libéraux ont raison. C'est vraiment ça. C'était...
Ils ont raison. T'as donné raison aux libéraux?
Ouais, mais moi, j'étais un souverainiste.
Ouais, je le sens.
Total à ce moment-là. Donc,
j'étais
un gars de région. J'étais un gars de Québec, j'étais un gars du Saguenay, de Chicoutimi, j'étais un gars du Québec profond qui tient à ça aussi, puis qui trouve que c'est merveilleux puis fantastique ce qu'on a construit, puis qui a un mépris pour ce mépris montréalais que tout ce qui est passé l'île, c'est les filles de Caleb à Grand-Mère du
régions.
Québec. Ben, c'est ça, moi j'ai de la difficulté avec ça. Puis d'aller à Montréal, ça m'a mis au centre-ville à ce moment-là. Je vais souvent parler d'un régionaliste à ce point-là. J'y travaille régulièrement.
Ouais.
C'est ça qui me le fait exposer. Mais la première fois, quand j'ai près de 15 ou 16 ans, puis que là, je suis en contact pour la première fois avec un monde que je n'avais jamais vu, ce que je constate, c'est que les libéraux ont raison sur la question démographique puis référendaire. Quand ils nous disent essentiellement un genre de Legault, qui est un libéral par fonction à cette heure, qui nous dit... Montrez-moi un sondage qui montre qu'on peut gagner un référendum.
Non, c'est fini ce temps-là.
As-tu déjà vu un libéral fédéraliste? J'en ai jamais croisé un. Tu le demandes. J'essaye de débattre avec un. J'essaye. On fait un débat sur l'indépendance versus le fédéralisme.
Non,
j'en
impossible.
Ai pas trouvé aucun assez convaincu du fédéralisme pour le défendre. Philippe Couillard a voulu réformer la Constitution canadienne. Jean Charest voulait réformer la Constitution canadienne. Le prochain voudra certainement le faire également. Les libéraux, l'héritage constitutionnel, puis ce qu'eux nous proposent typiquement, c'est une réforme. La seule différence, qu'ils nous disent, on ne l'obtiendra pas par l'indépendance, on va négocier avec le Canada, on va arriver à une nouvelle entente. Couillard a passé 2 ans, pendant qu'il était premier ministre, à écrire un mémoire d'au-dessus de 150 pages pour donner à Trudeau et lui demander un début d'un exercice constitutionnel.
Couillard a fait ça?
Couillard a fait ça pendant qu'il était en fonction.
Ça me surprend. Il avait l'air de mépriser les Québécois, ça me surprend.
C'est ce que je veux dire. Même si on prend l'exemple le plus extrême, même eux ne sont pas convaincus de la formule canadienne et cherchent une réforme. Et quand il a annoncé ça, il est arrivé très solennellement, dépose son document sur lequel il a travaillé puis qui a mis beaucoup de temps et d'énergie en se disant, ça va peut-être... Moi, je suis le plus libéral des libérales, le plus... Je te tends une main, là, à Ottawa. T'as un partenaire qui veut régler... Je suis pas un souverainiste qui veut cracher dans ta main puis saboter les négociations. Et la réponse de Trudeau, il ne s'est même pas arrêté devant les caméras.
Digne de son père.
C'est même pas arrêté. M. Trudeau, il veut la déclaration, M. Couillard, aujourd'hui, vous connaissez ma position, on ne rouvre pas la Constitution. Cette scène-là est sur YouTube.
Ouais.
On la voit très bien. C'est exactement comme je t'ai décrit.
Oui,
ne s'arrête
pas.
C'était bien. Je n'ouvre pas. Je m'en vais. Et ça s'est arrêté là.
Ça a été ça.
Oui, ça a été
l'effort
ça.
L'effort de Couillard.
Puis c'est là que je veux dire les libéraux ont raison, puis je les comprends. Là. Ils ont dû faire le même calcul. Les libéraux qui sont exclusivement politiquement à Montréal à cette heure, qui n'ont plus aucune représentation en dehors de l'île ou à peu près, qui sont un parti de Montréal pour et par Montréal, mais eux autres, ce qu'ils voient, c'est « Mais non, de quoi vous parlez un référendum? »
Oui, en fait, ils sont déconnectés quand même du reste du Québec.
Oui, mais eux, ce qu'ils voient, c'est écoute, mon homme,
mais c'est leur
arrivera
réalité.
Pas. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas par conviction pour le Canada, autant que par rejet du projet souverainiste.
Oui, oui, tout à fait.
Ce qui en dit extrêmement long sur la probité puis la validité du projet canadien.
Mm-hmm.
Que même ceux qui sont censés dire « Non, c'est pas ça, mais c'est pas ça non plus. On va essayer de régler cette question fédérale. » Fait que ça, quand j'ai constaté, je voyais leur perspective.
Ouais,
pour la première fois. Ah, c'est quoi? Est-ce que ça
pas que ça te fait plaisir, mais tu étais capable de le comprendre.
J'étais capable de comprendre leur position.
Ouais.
J'étais capable de voir que, écoute, c'est pas aussi évident que pour un gars qui a grandi au Saguenay puis qui a grandi en région toute sa vie, puis que tout le monde qu'il a croisé, c'est à peu près un profil compatible avec le souverainisme québécois ouais. depuis les 60 dernières années.
Mm-hmm.
Tu vois un autre monde, puis ça t'expose à dire « Ah, OK ». Maintenant, je comprends pourquoi ce n'est pas réglé, ouais. pourquoi ça ne se réglera pas,
c'est
pourquoi ce qu'eux nous décrivent comme étant les limites de notre projet, ils ont absolument raison. La francophonie, c'est un problème.
Mm-hmm.
Faire un Québec francophone dans cette configuration, c'est un problème.
Oui, puis en plus, c'est que ça coûte cher de traduire en français. Il y a comme ça, il y a un alourdissement.
Moi, je parle juste de la logique démographique.
Oui, oui, oui.
Strictement démographique.
Mais on est quand même une nuisance à plein de niveaux pour le Canada anglais, j'ai l'impression. Pourtant, les francophones, il y en a tout.
Qui a chié. C'est eux autres qui ont voulu ça. C'est eux autres qui nous l'ont imposé. Ils ont absolument, voulu conquérir 100%. Un peuple francophone. Ils ont voulu le vassaliser, qu'ils vivent avec. On a voulu partir, ils nous ont dit non, ils ont tout fait pour nous empêcher.
Drôle,
ils ont fraudé le référendum pour nous empêcher de partir.
OK, mais ça, tu viens de peser parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'ai mon chum, j'avais 10 ans, je révèle mon âge quand ça a été le référendum de 95. Puis j'étais trop jeune pour comprendre tous les enjeux politiques, mais on avait des pancartes du oui dans mes fenêtres, puis tu sais, mes parents étaient quand même à fond pour le oui, là. Puis on se rappelle tout de la scène de Dédé Fortin quand il voit qu'ils ont perdu puis qu'il fait son show live. Puis, tu sais, je leur vis. Mon chum a fait un documentaire là-dessus pour c'était les 30 ans du référendum. Je ne sais plus quoi. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. 25 ans, je pense. Puis, donc, pas longtemps. Ça fait peut-être quelques années que je me dis c'est sûr, ça a été fraudé, ce référendum-là.
Oui, absolument.
Que ce soit aussi serré, c'est sûr, ça a passé.
Non, ça a été fraudé de tous les bords.
Mais tu bases sur quoi pour dire
ça? Ah, ça a été compris. Écoute, là-dessus, il y a des documentaires fantastiques.
Ah ouais?
Notamment un, écoute, qui était, ça s'appelle La guerre secrète contre l'indépendance du Québec.
Mais là, t'es complotiste en disant ça, non, c'est vraiment non, assumé, c'est un fait.
C'est contraire.
Là.
Ben oui, absolument, c'est un fait documenté.
Ça qu'on aurait dû gagner, on aurait dû devenir une nation.
C'est un fait documenté qu'il y a eu des manœuvres illégales par le camp fédéraliste pour avancer leur posture, puis gagner un avantage indu dans le processus référendaire.
OK, mais comme ils venaient faire c'est un jeu de séduction aux Québécois,
au-delà de ça, comme on a noyauté, infiltré le mouvement souverainiste avec les services de renseignement canadiens. Il y a des bombes du FLQ qui ont été sautées par des services de renseignement canadiens. La CIA a noyauté le mouvement souverainiste. Les listes de membres ont été volées par les services de renseignement canadiens. Trudeau, père, avait demandé textuellement à ses services de renseignement puis à son ministère de la Défense, vous allez vous occuper des souverainistes comme qu'on s'est occupé des communistes.
OK, ça
encore une fois, moi, ça, je te dis, ça, pour moi, c'est pas une conspiration parce que je suis un gars de géopole, parce que je vois comment le monde fonctionne puis que ce qu'on voit, c'est souvent juste la pointe de l'iceberg, ce qui se passe en coulisses. Est-ce que vraiment un pays du G7 va se laisser exploser sans résister?
Ben non, c'est ça.
Est-ce que vraiment c'est un pays comme les États-Unis vont regarder leur plus gros partenaire commercial, économique, politique, diplomatique?
Séparé en deux par...
Séparé avec une incertitude sur l'orientation du pays en question.
Dans le sens,
on s'aligne avec l'Europe, avec la France. On n'a pas des contacts directs avec les États-Unis, du moins pas substantiels dans le processus référendaire. Fait que les Américains ont toutes les raisons.
Dans ce que tu avances, c'est que les Américains ont joué un rôle aussi dans cette fraude-là.
Les Canadiens, absolument. Okay.
Les deux avaient un intérêt à faire ça.
Tout à fait. Okay. Tout à fait. Puis ça, c'est naïf du mouvement souverainiste de penser que tu vas...
Qu'on a vraiment jamais... perdu, mais si on s'entend que ça
n'a pas changé. Non, mais c'est au-delà de ça. Moi, je dirais la naïveté du mouvement souverainiste ne vient pas de là. La naïveté vient qu'on n'a pas fait pareil. La naïveté vient que nous autres, on a joué par les règles comme s'il y avait un seul pays dans le monde qui s'était voté oui en signant en dessous de la feuille.
C'est comme...
qu'on envoie ça à Ottawa, puis Ottawa fait « Ah, OK, sorry. Ouais. »
Mais c'est comme faire le sprint aux Olympiques puis être le seul qui n'est pas dopé,
c'est ça.
Finalement.
C'est exactement ça. Là-dessus, il y a une naïveté à dire... pas de frauder, mais pourquoi le mouvement souverainiste n'a pas eu n'a pas attaché toutes les ficelles avec le gouvernement fédéral américain avant de commencer tout ça. Uh-huh. Pourquoi il ne s'est pas créé des partenaires chez les États individuels américains pour s'assurer d'une reconnaissance rapide? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas noyauté, nous aussi, les services de renseignement canadiens? Canada, on en fait partie. Uh-huh. Pourquoi il n'y a pas des Québécois là-dedans qui étaient non officiellement, secrètement alignés avec notre mouvement?
Mais pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué cette guerre? On est un peu naïfs, on a été bienveillants, on s'est dit qu'ils nous laisseraient faire, ils nous ont promis qu'ils ne s'ingéreraient jamais dans le processus référendaire. C'était naïf de notre part.
En fait, c'est comme si on ne comprend pas vraiment notre posture dans le Canada anglais. On ne comprend pas, mais de toute façon, maintenant,
on n'a pas besoin
de
la comprendre.
C'est ça, comme des amis, alors qu'on ne réalise pas qu'on était une menace pour le reste du Canada anglais.
Ils gèrent un pays, puis à un moment donné, c'est comme si tu avais un département qui menace constamment de partir en grève
dans ton
entreprise.
Oui, c'est ça. Il t'énerve. Il faut que tu trouves une façon de les faire taire une fois pour toutes.
Oui, puis c'est un gros contrat à un moment donné. Dans quelle direction tu le diriges? Mm-hmm. C'est dans le département qui a peut-être la direction qui va partir en grève dans 4 mois.
Oui.
Non. Fait que le Canada s'est entièrement configuré en l'absence du Québec. On se demande pourquoi aujourd'hui on n'a pas de relation avec l'Europe. Pourquoi il a fallu que Mark Carney aille en catastrophe en Europe pour apprendre le nom du premier ministre du Royaume-Uni puis d'Emmanuel Macron, puis on n'avait virtuellement aucune relation avec l'Europe, avec l'Afrique francophone, avec le reste du monde, parce que le Canada se configurait vers l'Ouest, vers le Pacifique, vers l'Asie, vers le Sud.
C'est vraiment voulu parce qu'on était trop accoquinés avec l'Europe, tu penses, c'est ça?
Le Québec? C'est pas une question d'accoquinage, c'est vraiment une question de...
Référence culturelle.
T'as un pays Est-Ouest d'un océan à l'autre. Il y a un bloc énorme à l'Est qui menace de sortir du pays. Est-ce que tu configures ton économie nationale...
De l'autre bord.
Pour passer vers l'Est?
Okay, je comprends.
Aucune chance. Le Québec contrôle le fleuve Saint-Laurent.
Ouais.
Le Québec, dans l'éventualité d'une indépendance, contrôlerait tous les chemins de fer fédéraux qui sont
c'est
sur son terre.
On aurait pu être souverain. On aurait vraiment eu, financièrement, il y avait un plan avec option nationale qui était vraiment intéressant. On aurait pu économiquement s'en sortir.
C'est même pas une question.
Non, mais ils ont joué beaucoup là-dessus.
Je trouve ça insultant
de faire croire ça.
Parce que j'imagine que le mouvement souverainiste québécois aussi a manqué de figures crédibles là-dessus au cours des années critiques.
Oui, je pense que oui.
On a eu M. Parizeau, qui a rendu un service immense à cause souverainiste. Tu mentionnes M. Hossan également.
Ouais.
Jean-Martin Hossan a rendu un service immense,
ouais.
Même pas par le travail en amont. Non, juste par acte de présence.
Ouais.
En étant souverainiste. Puis
en ayant les arguments d'économiste.
Ben exact. En étant une personne qui n'est pas analphabète en économie, puis en étant un souverainiste affiché.
C'est ça.
C'était en soi un témoignage de confiance pour le projet souverainiste sur sa vertu économique.
Il n'a même pas été élu dans sa circonscription. Moi, ça m'a débiné complètement, ça. Je l'ai... Puis après, il a démissionné. Ben, en tout cas, Puis c'est là que j'ai arrêté. C'est comme si, moi, ma fibre souverainiste, ça s'est éteinte avec la carrière de Jean-Martin Hossan. T'sais, je me suis dit, si ce n'est pas avec lui, ce ne sera jamais avec personne.
C'est le dernier à nous parler ouvertement.
Ouais.
C'est à peu près un des derniers qui en a parlé ouvertement. Vous me direz, puis à chaque fois, je dis que le PQ n'est pas assez souverainiste, ça fâche tous les péquistes.
Ben,
mais c'est que ce qu'on a mis sans veilleuse
PQ,
pour des gains politiques.
C'est plus le PQ des années de l'évêque. C'est fini, ce temps-là. T'sais, on est rendu avec un parti, en tout cas, peu importe, je ne veux pas rentrer forcément là-dedans, la politique québécoise, des fois, ça me saoule, mais c'est juste les belles années sont derrière nous, je pense. Je suis d'accord avec ce que tu disais tantôt par rapport au PIC. Juste pour finir sur l'immigration, parce que je sais que tu n'avais pas fini, puis moi, je trouve ça bien important de conclure nos dossiers. Tu avais parlé du centenaire, puis après, tu avais comme les autres enjeux qui étaient importants au point de vue politique.
L'objectif politique, c'est d'absorber le Québec, de neutraliser la menace souverainiste. Puis l'objectif économique, c'est tout simplement de voir qu'on a un pays avec une décroissance de la population qui amène un certain nombre de défis pour les pensions, pour le chômage, pour les services publics, qui va payer pour tout ça. Là, on arrive dans la prérogative de dire, ben, regarde, si on s'en va dans cette direction-là, on fait juste pointiller notre ligne avec de l'immigration.
Seigneur, c'est un petit peu maternel comme...
Ben, c'était l'idée, encore une fois, si tu dis qu'il n'existe pas de nation, c'est quoi ton mandat comme gouvernement? Ça devient vraiment d'assurer le maintien de la qualité de vie des gens qui sont à l'intérieur de ton hôtel administratif.
Tu es un
manager, carrément. Puis ta job, c'est de dire, regarde, là, les shareholders, eux autres, il faut qu'ils maintiennent à peu près le même niveau de qualité de vie. Fait qu'est-ce que je fais? On rentre de la main-d'œuvre. On va rentrer de la main-d'œuvre. Et ça aussi, c'était une catastrophe. Hein?
Fait que ce soit illégal, c'est pas vraiment grave. À la limite, l'immigration illégale pose pas vraiment problème.
Non, puis il l'a dit ouvertement. Il a tweeté. Venez au Canada, vous êtes ici chez vous. Puis il a invité les gens du monde entier.
Les portes sont ouvertes.
Absolument.
Bar Open.
Absolument. Ce tweet-là a été en 2017, si je me souviens bien, où Trudeau avait dit, dans la foulée justement d'un grand mouvement migratoire aux États-Unis, Trudeau avait dit, écoutez, venez au Canada, vous êtes chez vous, on vous ouvre les portes, un peu comme l'avait fait Angela Merkel à l'époque avec les Syriens. Ouais. Et ça a eu à peu près le même résultat. Mm-hmm. Les gens ont entendu cet appel-là.
Ben oui.
Les gens ont besoin d'un endroit où aller. On néglige à quel point, justement, ailleurs dans le monde, il y a des conditions de vie qui sont beaucoup plus difficile, puis on est choyé, puis on est privilégié au Québec.
Mais en même temps, ça devient de plus en plus difficile. Tu parlais tantôt, tu disais que tous les réseaux sont en train de s'effondrer, ça craque de partout. Est-ce que, selon toi, c'est un petit peu coordonné afin de faire un great reset, ou tu penses que c'est juste un concours de circonstances qui fait que tout s'écroule?
Tu gères la décroissance.
Quoi?
Tu gères la décroissance.
OK.
C'est facile d'être premier ministre du Québec dans les années 60, 70. L'argent te sort par les oreilles, mon homme. Les Jeux olympiques, puis le métro, puis l'île. On fait ce qu'on veut, puis la Formule 1. Puis ouais, on a de l'argent qui nous sort par les oreilles. On est en croissance économique, puis en croissance démographique. Mm-hmm. Là, on se retrouve dans une situation de décroissance
économique,
démographique. Naturellement, toi, t'es premier ministre, mais c'est quoi que tu fais? Tu ne fais plus des grands projets, puis tu ne fais plus des... Non, tu es là pour gérer la décroissance.
On sent la ceinture,
t'assurer de minimiser les dommages, minimiser les impacts. Puis là, tu ajoutes à ça, ben c'est ça, des pressions externes qui viennent faire craquer ton système de santé, craquer le système d'éducation, etc. Mm-hmm. Il y a un élément de tout ça, mais il ne faut pas ignorer non plus qu'il était déjà...
Mais ça fait longtemps que ça ne va pas bien.
À une goutte de déborder. Il y a une raison pour laquelle ça en a...
Ça craque.
Pas normal qu'on ait une augmentation de population d'à peu près 250 000 personnes pour faire effondrer le système
mais
au
non,
complet.
C'est
pas normal. T'es censé avoir un peu de jeu.
On nous dit que ça va pas du tout, mais il n'y a jamais rien qui est fait. Les garderies, moi, c'est le genre d'enjeu qui me concernait zéro avant d'être mère. Maintenant, je suis très sensible à cette cause-là. C'est épouvantable comment c'est difficile de trouver une place en garderie. Il faut que tu envoies quasiment des bouquets de fleurs à toutes les garderies, que tu ailles cogner à toutes les
Mais là, on en vient à avoir une réflexion très difficile, à dire si des gens arrivent ici comme réfugiés, on ne peut pas les envoyer dans des garderies privées, ils n'ont pas les moyens. Normalement, comment on procède? C'est par remboursement à travers l'impôt.
Oui, c'est ça, mais il faut que tu le payes quand même en premier lieu. Ça coûte cher.
Fait, qu'est-ce qu'on fait? On les place dans les CPE. Ce qui sort naturellement des enfants naturels québécois, qui sont nés au Québec sur le territoire. Fait que les gens, c'est pour ça que je te dis, on n'avait pas l'impression que l'immigration nous enlevait quoi que ce soit.
Ouais,
on
n'avait
vraiment pas l'impression. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont l'impression que ça leur enlève quelque chose.
Ouais.
Ce qui m'amène à l'autre point qu'on évoquait par rapport à ça, c'est que il y a quelque chose d'inhumain là-dedans. Il y a quelque chose de profondément inhumain à appliquer une solution permanente à un problème temporaire, qui est une crise de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que l'économie va trop bien. OK.
C'était ça, c'est ça la défaite.
C'était ça l'excuse, c'est-à-dire, écoute, on a tellement de croissance, les restaurants roulent, tout le monde, les hôtels ont besoin de monde, les shops en bosse, ils n'ont personne. Il faut en rentrer des nouveaux travailleurs.
Ouais.
Cet argument-là tient la route dans un contexte où tu as besoin des travailleurs.
Quelques
tu fais
mois.
Quoi avec dans 5 ans?
Ouais, puis, de toute façon, la récession, les commerces ferment, les restaurants, ça fait faillite.
C'est cyclique.
Ça tombe comme des mouches. Là. Ouais.
C'est naïf parce que c'est cyclique.
Ouais.
C'est ça l'histoire du monde. C'est des cycles de croissance puis de récession.
Ces décisions-là quand même.
Bien là, c'est qu'on place énormément de gens sur nos programmes de chômage. On place des gens qui sont aussi venus ici. Puis ça, je veux dire qu'il y a inhumain. Faut voir les deux perspectives là-dessus. Des Québécois qui ont l'impression de se faire vider les poches, puis qui ont l'impression qu'on a abusé d'eux à partir d'un système instrumentalisé.
Ouais.
Mais aussi d'autres gens qui sont venus ici sous la promesse d'un accueil et d'un privilège de travailler, d'aller à l'école, d'avoir des enfants avec des opportunités.
C'est un peu un rêve qu'on leur vend. Là.
Ben, c'est ça.
C'est difficile en ce moment. Là. La récession, l'inflation, écoute, la vie coûte cher
c'est
là, maintenant.
C'est humain. Parce c'est que ça. Toi, t'imagines-tu le risque que tu as pris de laisser toute ta famille en arrière,
c'est
de
ça.
T'en venir ici, de laisser ta job, de laisser tout ce que tu as construit chez vous
ouais.
pour faire un saut dans le vide.
Tu as payé un 4,5 à 2000
piastres. Tu constates que c'est ça.
Ouais,
c'est ça, le Canada.
Ouais.
Fait que t'en as qui retournent, puis ils sont pas déçus du Canada. Ils sont fâchés. Amers, frustrés, puis je les comprends.
Mm-hmm.
Parce qu'on leur a fait miroiter que, viens, ça va être super,
donc,
ça va être fantastique.
Les deux, tout le monde est fru, en fait. Parce
puis
que
ce
là,
que tu constates en arrivant en plus,
ouais.
au-delà du fait que c'est dur, puis que c'est que la population locale a un ressentiment parce qu'on a l'impression que c'est
à
cause
de toi. Elle t'accueille plus de la même façon, cet accueil québécois, il commence à prendre le bord un peu.
Ça, on ne pourra jamais le pardonner, ni à Legault, qui a été responsable de ça aussi, ni à Trudeau.
Non, mais ça, c'est...
D'avoir orchestré un suicide national sous l'égide de la bienveillance, puis l'ouverture, puis ça a été une catastrophe.
Ouais.
Ça nuit à la qualité de vie des Québécois, ça nuit à notre capacité d'accueil, puis notre capacité à aider. Fait qu'au bout de la ligne, c'était politique. hypocrite, égoïste, méprisable. Il n'y a rien là-dedans qui méritait
le signalement de vertu qu'il a fait toutes ces années-là, finalement.
On vient en aide à des gens. Non, on est en train d'encore plus d'instrumentaliser, justement, cette immigration-là, alors qu'on accusait les gens qui s'opposaient à l'immigration.
Ben oui, à fond.
Faire de la politique. Là. Ben oui, elle disait, franchement, vous politisez les immigrants. C'est des humains.
Ouais.
C'est qui politise les immigrants?
Mais c'est des politiques.
Puis qui en fait de la marchandise.
C'est la même chose avec le mouvement LGBTQ. C'est devenu 100% politique. T'sais, c'est pas une question d'être capable d'accepter quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. C'est juste c'est 100% politique. Des millions en subventions qui sont mis dans des organismes qui militent pour les droits LGBTQ. J'ai mis en parenthèse parce que je veux dire, c'est des droits humains. Là. C'est ridicule qu'il y ait des droits pour eux. Là. Mais on est vraiment sur les politiques veulent créer de la division. En fait, il y a tout intérêt à prendre des mouvements comme
ça.
C'est
pas ça. Je suis pas prêt à ça. Moi, ce que je vois du monde, c'est qu'on a énormément, premièrement, d'incompétence. C'est un niveau qu'il faut vraiment pas...
Des fois, j'ai de la misère avec ça. Tu penses qu'ils sont juste tous incompétents?
Non. Je te dis, on a un niveau d'incompétence ambiante qui est important. Oui, absolument.
À cause de la bureaucratie.
Mélanie Joly, notre première ministre, notre ministre des Relations étrangères jusqu'à dernier remaniement.
Je vote. Oh mon Dieu.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire.
Mais comment ça qu'il est encore là?
Plus tu t'approches du pouvoir politique, que ce soit par consultation, de l'aide, militantisme, whatever it is, dès que tu t'approches un peu, ce que tu constates, c'est que c'est loin d'être aussi glamour que ce qu'on pense.
Ouais, j'imagine.
Tu fréquentes les gens qui sont des élus.
Ouais.
Tu regardes la CAQ, là, ils ont combien? Ils ont au-dessus de 90 députés comme c'est là. Penses-tu qu'ils en ont 90 clutch? Puis je vais te donner la réponse, les autres ne te voient pas.
Mm-hmm.
C'est aussi simple que ça.
Mm-hmm.
Moi, je m'en vais en élection, je me pars un parti, on est pour gagner. Je vais peut-être en avoir 70 qui vont gagner, je ne sais pas. Mais là, il faut que je passe 70 personnes en entrevue.
Et
j'essaie de voir c'est quoi.
Ouais.
Puis là, il y a même mon Koskinen, mon chef de cabinet qui va essayer de travailler, qui va essayer de voir m'aider un peu. Puis on va avoir un staff qui va y passer en entrevue. Mais moi, personnellement, combien je connais là-dedans?
Ouais,
puis là, je gagne, là, j'en ai 90 qui ont gagné.
Bon, et là, c'est ton équipe.
Les 15-20 que tu assignes comme ministre, là... Il y en a quelques-uns là, qui se ramassent sortis de ça puis qui auraient peut-être mérité. Mais la majorité des cas, ils ont pas mal pris la crème de la crème de leur parti.
Ouais.
Les autres, c'est vraiment que c'est des gens intéressés, intéressants par la politique, qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont humains, bienveillants, mais qui ne sont pas nécessairement les plus compétents en termes d'administration, en termes de sciences politiques, en termes de géopolitique, de notre place dans le monde, d'économie, en termes de croissance, de gestion de ressources et de personnel.
Ouais.
Hey, c'est tough comme job. Là.
C'est sûr.
C'est tough comme job.
Ouais.
C'est là que je veux dire. C'est pas dire que c'est des incompétents. On a un niveau ambiant d'incompétence qui est très élevé. Parce que la barre est tellement haute de la compétence que tu peux être très brillant et être incompétent pour être un député. Je connais des gens qui sont députés. Qui sont des personnes brillantes, qui ont été dans le service public, qui ont été dans l'armée, qui ont été dans des fonctions où ils brillaient, mais où la politique et l'administration de l'État...
C'est un peu à côté de leur champ d'expertise aussi.
C'est complètement au-dessus de leur expertise.
Oui, je comprends.
Puis de la manière que moi, je ne serais pas compétent de gérer un État ou un ministère.
Ouais.
Je n'ai jamais géré de grosse organisation de cette dimension-là. Je n'ai pas l'expérience qu'on... Fait que moi, je deviens ministre d'un matin...
Mais c'est un choix, tu sais, dans le sens, parce que j'ai souvent entendu le monde excuser l'incompétence de Legault, mettons, en disant, tu sais, pendant la pandémie, « Ouais, mais tu sais, il n'a pas demandé, lui, à être là pendant qu'il gérait une crise comme ça, puis tu sais, t'aurais pas voulu être à la place de Legault. »
Ben,
lui,
possible.
Non, c'est vrai, mais moi, je ne me suis pas présentée pour être première ministre, tu sais. J'ai pas un parcours qui m'a amenée en politique.
Ouais,
fait que, tu sais, moi, l'excuse de... T'as le droit d'être incompétent un peu parce que tu ne serais pas meilleur, ça m'énerve cet argument-là. Je veux dire, si tu es là, tu es dans ces bottines-là, ben avale le métier puis fais ton 110%. Là.
Elles font leur possible, encore une fois.
Mais son possible, c'était
d'abord, la barre de la compétence est tellement haute, c'est tellement difficile, puis ça en prend tellement pas gros pour qu'on tombe dessus puis que ça détruise ta carrière.
Ouais.
Tu me proposes de faire de la politique.
Jamais de la vie. Non, c'est pour ça que les gens sains d'esprit ne font pas de politique.
Ce qui nous amène à l'autre point. À un moment donné, les gens qui décident d'y aller, soit ils pensent que ça ne s'appliquera pas à eux.
Mm-hmm.
Ils ne me feront pas ça. Ça va bien aller. J'arrive avec des bonnes intentions.
Il y a une
espèce de naïveté là-dessus.
Ouais.
Ou soit c'est vraiment le pouvoir en tant que tel, puis la chose politique qui t'intéresse.
C'est sûr.
Je ne veux pas généraliser encore une fois, mais c'est parce que quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, qui comprend la chose politique, qui comprend ce que ça implique, ce que ça veut dire pour ta famille, pour toi, pour ta carrière.
Mm-hmm.
C'est difficile de regarder ça de l'extérieur en connaissance de cause, puis se dire, wow, oui, pour 90 000 par année,
Oui, mais ils ont des petits pots de vin à gauche à droite quand même.
Ben, mettons que tu les montes à 200. Là.
Non, mais c'est sûr que c'est le pouvoir qui t'attire là-dedans. Mais au bout de la ligne, point, c'est que, ceux qui
c'est que les gens les plus compétents, puis l'élite de l'administration, de l'économie, de la production de richesses, de la gestion de ressources, tout ce monde-là, mm-hmm. ils sont dans le secteur privé pour la plupart. Mm-hmm. Si tu leur proposes une job dans le secteur public, ils vont dire, voyons, t'es-tu malade? Ah,
c'est ça, je vais payer.
Jamais dans le milieu.
Coupe de 5 fois mon salaire.
De 5 fois mon salaire, je fais des semaines de mongol, tout le monde va me détester. Ouais. Les médias vont être sur mon dos à l'année, tout le temps. Ouais. Ça va checker mes posts de réseaux sociaux, je l'ai 10 ans. Ils vont enquêter sur mes amis. Ils vont aller voir où je passe mes vacances. Mm-hmm. Va chier! Puis là, tu me dis, j'ai aucune sécurité d'emploi. Puis quand je vais leur sortir de là, 50 % des entreprises au Québec ne voudront pas m'engager à cause de mon identification politique, idéologique.
C'est la réalité?
Une portion considérable.
Vous en serez, il faut une misère à se retrouver de la job quand même.
Non, mais exemple, un Denis Coderre. Une couple d'entreprises, ils ne toucheront pas. Puis un Jean Charest, tu as une couple de cabinets qui ne toucheront pas.
Moi, je n'irai pas checker un bâton, mais c'est parce que je ne l'aime pas. Mais ils ont des amis quand même. Mais
ils s'en est bien sortis. Oui, absolument. Ils ont des amis, puis
ils sont bien plugués.
Démunis. Oui. Mais de manière générale, c'est que ce n'est pas une job attirante pour quelqu'un qui est dans le secteur privé, puis qui a des bonnes conditions, puis qui aime ce qu'il fait. Là, tu me dis, je ne suis même plus boss. Il y a quelqu'un qui bosse par-dessus moi. Puis là, c'est lui qui décide, je suis ministre ou pas. Puis écoute, sinon, je suis député.
Ouais. OK, fait que toi, la carrière politique, c'est pas pour toi.
Ben non, mais il y en a. C'est juste, si tu regardes ça de l'extérieur, puis tu comprends pourquoi c'est pas un draft, là. Tu comprends? On y va pas, genre, pour ministre de l'Éducation, le gouvernement du Québec draft notre top dog de l'éducation ever. Ouais. C'est toi qui deviens ministre. Puis pour premier ministre, ben on a fait une entrevue à travers le Québec au complet. On a recruté
des. Si on faisait ça, on aurait un gouvernement infiniment plus compétent.
Oui, mais antidémocratique.
Ouais, mais.
You choose.
Non, attends, ça pourrait être démocratique.
T'as la démocratie ou la technocratie dans un des deux.
Mais, ouais, j'espère pas la technocratie, mais si on faisait en sorte. Mais là,
C'est ce que font les Chinois. C'est ce que font les Chinois. J'essaye de faire les Chinois.
Il y a moyen de faire en sorte que les gens, tu sais, même à la mairie, quand on va voter, puis on sait même pas pour qui qu'on vote parce qu'on les connaît pas, les candidats. Mais tu sais, si au moins avant, il y avait les gens, les citoyens, s'étaient impliqués dans la sélection même des. C'était ça en Grèce, là, des candidats. En tout cas, on pourrait en parler pendant des heures. Je sais que tu as un souper ce soir, je veux pas
te dire. Il faut atomiser la démocratie, d'une certaine manière. Puis si on parle d'aider la cause souverainiste, puis de justement d'atomiser la démocratie, un des recours qu'on pourrait avoir, ce serait de transférer du pouvoir aux Québécois.
Oui.
J'ai entendu cette proposition-là récemment, puis je me permets de lui faire un porte-voix. Transférer du pouvoir à partir du gouvernement du Québec.
OK.
À la population québécoise.
Ah, ce serait une super bonne affaire, ça.
Des référendums d'initiative populaire, ça devrait être
possible.
Il y a
plein de pays qui font ça, puis ça fonctionne super bien.
Absolument. Puis à l'échelle du Québec, c'est tout à fait possible.
Oui, c'est ça.
Et additionnellement, des référendums de rappel. On devrait être en mesure de rappeler un élu qui ne remplit pas son mandat.
Ça, on devrait faire ça tout
un
le temps.
Un élu problématique, apparaît un pressant.
Jean Trudeau, là, quand ça s'est mis à vraiment.
Il y aurait eu un Trudeau aurait été un cas. Parfait pour ça. Où le système politique n'était pas en mesure de se débarrasser de Trudeau pour des raisons politiques et mécaniques.
Mais le peuple n'en voulait plus. Même lui, il n'y avait plus de
l'argent. Mais l'opposition le fait vivre, puis le bloc le fait vivre, puis tout le monde est là. Tu dis là, ça c'est antidémocratique parce que la volonté populaire, c'est se débarrasser de ce gars-là au plus vite. Et à cause qu'on ne l'a pas fait, ça nous a placés dans une mauvaise posture 5 puis 6 mois après. Puis quand il était urgent d'avoir un nouveau premier ministre, on s'est retrouvé en pleine campagne électorale avec un gars pas de mandat qui se promenait en Europe avec des. C'était n'importe quoi.
Ouais.
Notamment à cause qu'on a prolongé tout ça de manière artificielle sous le respirateur, on a mis Trudeau.
Uh-huh.
On devrait offrir aux gens la possibilité de faire des référendums de rappel. Puis plus largement, l'esprit derrière cette proposition-là de transférer du pouvoir du gouvernement québécois à la population, c'est de leur donner un bonbon, de leur donner une raison d'appartenir au Québec. Mm-hmm. Et si on parle, par exemple, du fédéralisme contre le souverainisme, bien là, le Québec, lui, il te laisse décider c'est qui te dirige. Puis Ottawa, non, t'as pas cette option-là. T'as pas cette option-là, puis le régime ne permet pas un référendum de rappel, ne permet pas les initiatives populaires, ne permet pas les propositions citoyennes. Le premier ministre...
Un référendum de rappel, Legault, il en voudrait pas.
Ben non.
T'sais, c'est ça, une fois qu'ils sont au pouvoir, il avait dit qu'il allait réformer le mode de scrutin, il ne l'a pas fait. Ils le disent tous, puis ils ne le font pas. Parce qu'une fois qu'ils sont assis dans le trône, ils ne veulent plus le lâcher. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on voit que le pouvoir corrompt.
Le pouvoir, tu vas l'enlever de mes mains froides.
Exact.
Essentiellement. Même chose avec Ottawa. C'est pour ça que je te dis, vois-tu, si on réfléchit par rapport à ce genre de proposition-là,
ça devrait être comme ça qu'on le fait aussi. On ne demande pas permission.
Ouais,
ben chier. Oui. C'est de même à cette heure. Puis j'additionnerais là-dessus. Tu veux configurer un pays, un État. C'est quoi qui nous empêche au Québec de changer la manière dont les juges sont sélectionnés? C'est quoi qui nous empêche au Québec de s'assurer que
les
premiers ministres n'ont plus un pouvoir exécutif total et complet?
Séparé comme aux États-Unis.
Ben oui, il n'y a rien qui nous empêche de créer une république dans le cadre constitutionnel canadien.
Tu me donnes de l'espoir à t'écouter parler.
Ben, c'est parce que je trouve décevant de voir les souverainistes sont restés, ben, pour toutes les raisons que je t'ai évoquées. Moi, ça m'intéresse vraiment pas.
Je comprends. Mais au moins, tu as une voix.
Ben, j'ai l'impression que je suis plus utile à l'extérieur. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus utile à l'extérieur. Puis, sais-tu, ce que je constate, c'est que les souverainistes, ils veulent juste se faire dire ces affaires-là. Puis les fédéralistes veulent juste se faire dire ces affaires-là. Puis à chaque fois, je parle avec quelqu'un qui n'est pas certain, pas convaincu, on a une discussion, puis on fait l'exercice mental de voyons, dédramatiser tout ça aussi. C'est-à-dire, un pays, tu gars, t'as un gouvernement de trop, madame. C'est aussi simple que ça.
Ouais,
c'est ça. T'as un gouvernement de trop au complet. T'as vu comme ça n'a pas d'allure? Enlève-en un. C'est déjà une base. Juste quelqu'un de droite devrait accepter ça.
Qui ramène le peuple.
J'entends beaucoup de gens de droite qui me disent « Franchement, le Québec, c'est des gauchistes. » Je suis d'accord avec vous. Ouais, les paramètres, moi aussi, je suis un gars plus de centre-droit. Économiquement, puis au niveau des allocations des ressources, ça me fait de la peine des fois de voir à quel point on manque, si on veut, de lucidité puis de pragmatisme. Maintenant, ça devrait être un point pour vendre le projet, ça.
Ouais, c'est ça.
T'es écœuré du gouvernement, mon gars. Je te fais une proposition. On repart à zéro. On reconstruit tout à partir de la base. Des ministères, puis notre représentation à l'international, puis notre monnaie, puis comment qu'on décide nos juges, puis c'est qui notre président, puis le Sénat.
Mais là, ça redonnerait de la fierté aux Québécois de s'impliquer dans un projet national.
Le goût de quelque chose, le goût d'exister.
Ouais.
Ça, je le cherche, ce goût-là. Je cherche quelqu'un, quelque part, une envie d'exister, parce que quand tu la trouves, on peut travailler avec puis faire quelque chose. Malheureusement, la plupart des Québécois regardent ça de l'extérieur en se disant, bah.
Non, mais c'est parce qu'ils sont rendus cyniques et désabusés. Puis ce qui est le fun, c'est que les solutions que tu amènes, puis tu sais, ça s'est fait dans des endroits où c'était, où on ne l'aurait pas vu venir, tu sais, où on réimplique la population, puis soudainement, on est dans un pays complètement différent.
Exact.
T'sais. Fait qu'espérons qu'il y aura ce déclic-là chez les Québécois, parce que tu sais, je pense qu'on peut pas enlever la fibre québécoise en nous. On est des Québécois. Puis, ben en tout cas, je sais pas ce que ça va prendre, mais ça me fait du bien de t'écouter parce que je me dis, crime, mais on a une nouvelle génération qui s'en vient, puis elle aura peut-être ces idées-là. Elle sera peut-être capable de les mettre en action.
Je les crie aussi fort que je peux.
Ouais, continue de crier. Merci pour ton temps, Benjamin.
Merci beaucoup.